des formes utiles. L'art et ses récits, une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Dans le studio avec moi, Makef, artiste béninois, pour la deuxième partie de notre entretien. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de son parcours autodidacte, de ses maîtres et influences et de son exposition en cours à la Galerie Valois, rue de Seine, dans le 6e arrondissement, Makef l'Insomniaque, où il présente sa série de dessins qui font partie de ce qu'il a appelé le mur de l'insomnie, des dessins au stylo bille sur les cahiers d'écoliers de ses enfants et qu'il a appelé « Mes nuits insomniaques et quelques jours d'errance » ou « Mes insomniaques et nuits nomades ». Dans cette deuxième partie, nous allons parler des ramifications de son travail, dans la création de décors, dans la scénographie, de ses collaborations et, comme à l'accoutumée, reviendra la question des formes utiles et de la responsabilité de l'artiste, auquel une question potentielle peut se rajouter, une question que je n'aurais pas posée et à laquelle l'invité aurait le désir d'apporter une réponse. Bonjour Makef.
Bonjour Fabiola.
Je me suis demandé si on pouvait, pour ceux qui peut-être ne pourront pas aller voir l'exposition, même si on les invite chaleureusement de s'y rendre. C'est au 41 rue de Seine, dans le 6e, la Galerie Valois. Ouais. Est-ce que tu pourrais décrire un dessin? J'avais relevé quelques titres.
Ouais.
Il y avait par exemple L'homme-oiseau.
L'homme-oiseau.
Il y avait Il n'a pas vécu inutilement. Le jongleur au visage de seau d'eau. Le coq a un propriétaire, mais il chante pour tout le village.
Bon, en fait, le coq a un propriétaire, mais il chante pour tout le village.
C'est un proverbe
en fait,
béninois.
C'est des proverbes, ouais, c'est un proverbe béninois. Ça peut être africain aussi. Ce coq-là peut appartenir à quelqu'un. Mais quand il chante, c'est pas pour la personne. Seul qu'il chante, il chante pour tout le village. C'est une façon pour moi de parler de nos petits proverbes, de nos contes.
Ça veut dire qu'on partage, on ne détient jamais complètement quelque chose.
Justement. Chez nous, il y a encore l'entraide. Les gens, on peut compter l'un sur l'autre chez nous. Le jongleur au seau d'eau. Pourquoi j'ai intitulé ce dessin...
Au visage de seau d'eau.
Au visage au seau d'eau. Pourquoi j'ai intitulé ce dessin le jongleur au visage de seau d'eau? En fait, le personnage... quelqu'un qui manipule des balles. Au début du dessin, il y avait un seau d'eau.
Ah, un seau déjà dessiné sur le...
Dessiné sur le papier par mon enfant. Donc, c'est à partir de ce seau que moi, j'ai créé le personnage. Et ce personnage, son visage est dans le seau. Quand moi, j'étais tout petit, nous, on avait des puits. Des fois, quand on tire l'eau du puits comme ça, il y a le reflet de nos visages dans l'eau. Donc, ce sont ces choses-là que je me remémore et qui transparaissent aussi des fois dans mon travail.
Il n'a pas vécu inutilement?
Il n'a pas vécu inutilement. Pour moi, quelqu'un qui plante un arbre, il n'a pas vécu inutilement. L'arbre, c'est la vie, parce que c'est ça qui donne
l'oxygène.
J'en appelle aussi à la préservation, à la protection. Donc, j'ai insisté ici sur le fait que celui qui l'a planté a fait œuvre utile à la vie et à la nature.
Tu peux décrire un peu pour qu'on puisse se rendre compte peut-être qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille?
Sur ce dessin, il y a un bonhomme à genoux devant un arbre à qui il donne de l'eau, c'est-à-dire il est en train d'arroser. C'est une façon de montrer qu'il prend soin de l'arbre. À côté, il y a une hache, Mais la hache, j'ai mis une croix sur la hache. C'est pour signifier que cette hache-là ne va pas servir à couper l'arbre.
Et tout ça en noir et blanc.
Tout ça en noir et blanc. Mais l'arbre est plus en couleur, couleur crayon de couleur, crayon à papier.
Et ça, c'est toi ou c'était
non,
déjà?
Non, ça, c'est pas moi. C'était déjà là. C'est fait par un de mes enfants. Bon, en fait, chez nous, à l'école, on a des cahiers de dessin. C'est pas des coups d'art plastique, hein. C'est juste des cahiers qui permettent à l'enfant, où le maître demande des fois à l'enfant de faire des dessins. Ça participe au programme, le programme de scolarité que le maître a, dont il fait dessiner les enfants, des sujets qu'il choisit, des fois il choisit, c'est lui qui demande, dessinez-moi un arbre, dessinez-moi une case, dessinez-moi la tête, le visage, et tout et tout. Donc, ce sont ces dessins-là que les enfants ont fait, que moi j'ai récupéré.
Donc, à chaque fois, quand il y a des couleurs, c'est pas toi.
C'est pas
toi,
moi.
Toi, tu utilises uniquement le bic.
J'utilise uniquement le bic. Quand il y a des couleurs, c'est pas moi.
Et lorsque, comme on dit, c'est en noir et blanc, et il y a ce contraste, le blanc, c'est le blanc de la feuille, et le noir, c'est le bic.
Si c'est le bic.
Tu rajoutes pas du blanc.
Non, je rajoute pas du blanc. Je n'en rajoute pas. Donc, mon travail, c'est. Quand il doit y avoir de l'ombre, c'est que j'appuie, je fais des milliers de traits, et après que j'accentue et qui fait l'ombre. Et puis quand il doit y avoir la lumière, donc de la luminosité, donc j'y vais et j'accentue moins jusqu'à obtenir l'effet que je souhaite.
Tu travailles, si quand tu travailles la nuit, c'est à la lumière artificielle, donc.
Moi, il y a des fois, je vais jusqu'à allumer mon téléphone portable, la lumière de mon téléphone qui me permet de me concentrer et de mieux voir, quoi. Parce que des fois, la lumière de l'ampoule, des fois, ne me permet pas de saisir les petits détails. Donc, je suis obligé d'allumer mon téléphone qui me permet de me concentrer, qui me permet d'être juste en face, en phase du moins, du sujet que je traite, quoi. Ouais.
Et j'aimerais dire aussi, parce qu'on parle du figuratif, mais c'est un figuratif, il ne faut pas imaginer un portrait
oui,
à la Renaissance.
Moi, je suis dans la libre figuration de... J'évite les détails, mais plus j'évite les détails, c'est-à-dire je vais comme un enfant qui dessine. Je vais comme un enfant qui dessine, tranquille, sans...
Et quand tu fais le vendeur de poissons ou le pêcheur,
ouais.
Ben, ça pourrait être n'importe quel pêcheur, même si c'est quelqu'un qui t'a inspiré.
Tu vois, et puis aussi chez nous, on a beaucoup de gens qui vont pêcher, on a beaucoup de gens qui vendent aussi du poisson, donc c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être comme quand je passe par le petit pont là, l'ancien pont, tu vois, sur le pont, on voit des pêcheurs sur l'eau. Et aussi chez moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de femmes qui vendent du poisson. Elles vont chercher le poisson au bord de la lagune là, qu'elles vont frire des fois, qu'elles vont fumer et qu'elles vont vendre. Donc, c'est des choses que je vois beaucoup, quoi. Beaucoup.
Mais quand tu dessines aussi ou quand tu peins, il y a des choses aussi imaginaires. Il n'y a pas toujours l'homme-oiseau.
Il n'y a pas que ce que je vois. Il y a aussi des choses imaginaires, des choses que je vois dans peut-être mes rêves ou des choses que je vois, que le commun des mortels ne voit pas, ouais. Il y a l'homme-oiseau et c'est comme des métaphores où on a de ces histoires où des gens se transforment, où on te dit un matin, on a retrouvé quelqu'un par terre parce qu'il était... Il était oiseau, et puis subitement, on ne sait pas ce qu'il a fait tomber. On retrouve souvent ces histoires-là chez nous.
Moi, je me rappelle les hiboux.
Justement, les hiboux.
On dit que c'est des sorcières.
Les hiboux, des oiseaux innocents chez nous, on les assimile au mal, quoi. Au mal. Alors que, bon, moi, je ne crois pas forcément, c'est des oiseaux qui sortent le plus souvent la nuit. C'est-à-dire, ils parquent la journée, ils se cachent quelque part, et puis c'est la nuit, ils sortent pour chercher les petits proies qu'ils mangent, là. Mais chez nous, on les assimile à la sorcellerie. Alors que la sorcellerie, il paraît que c'est une science. Moi, je n'en maîtrise pas. Hein. Il paraît que c'est une science. Mais bon. Mais aussi...
Juste pour compléter, parce qu'on avait parlé de hibou, des scènes de rue où on lance des pierres sur un hibou et après, il apparaît une vieille femme.
Oui,
on dit qu'elle s'est transformée.
Oui, transformée. Que c'est, elle était l'oiseau. Elle est une sorcière. Elle est allée... Il bouffait quelqu'un et de retour, elle a perdu sa puissance et elle est tombée de suite. Donc, tu vois, ce sont de ces histoires-là qui
Donc, toi, tu les cueilles. Ça ne veut pas forcément dire que tu y crois ou que tu adhères, mais...
En fait, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent chez moi. Peut-être qu'ils n'existent pas ailleurs. Mais ici, je peux parler de ça à quelqu'un. Mais même si la personne ne comprend pas, mais je lui dis que chez moi, par contre, parce que ici, ça ne peut pas exister, hein, cette histoire-là, ça ne peut pas exister. Je crois bien, hein, mais chez moi, ça existe. J'essaie de partager
de ta culture,
de ma culture avec les autres. Ouais. Ouais.
Bélé, bélé, Adama Goué, Yéra Soyon, Mémé Touéa, Olala Tchéhou. Adoro bo me toa iho e me wepo, e toro nyo me toa dodole. Adoro bo me, e toro nyo me toa dodole po oje. Adama bo e yena soyo me toe ya. Bire bire, Adama bo e yena soyo me toe ya. O la la che un. Adoro bo me toa iho e me wepo, e toro nyo me toa dodole.
Kanon bala khouta kokonja,
Konko e konko mi
lile eto le tata we
Kambala kuta kopon we
Unkoye lile eto le po vwena yi
Kanombala kuta kopon ja
Unkoye kunko mi lile eto le tata we
Kambala kuta ko Hayi 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 hayi
Kolo 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 kolo
kolo
Avant vous passez car et ta goûte de mer.
Aïe, aïe, aïe.
Comment
Tu es peintre, dessinateur, mais tu as conçu ou participé de la réalisation de décors, notamment pour le village du Fiteb, qui est le festival de théâtre du Bénin.
Oui, qui n'existe plus.
Ah, il n'existe plus, le Fiteb.
Aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Malheureusement.
Pour des mises en scène à l'Institut culturel français, par exemple, comme Rêvé à Cotonou, du metteur en scène Philippe Adrien, qui était directeur à l'époque du théâtre parisien La Tempête.
Ouais.
Sur le film du réalisateur franco-béninois Jean Audouton, L'Argile.
Ouais,
Et sur Contradiction, je pense que c'était la première que j'avais trouvé le spectacle de
Ousmane
Aleji, l'écrivain et dramaturge béninois. Tu as été illustrateur aussi pour des journaux. Est-ce que tu considères cet aspect comme une autre forme de création où ton filon artistique peut s'exprimer, ou est-ce une partie que tu considères indépendante de ton art?
En fait, je crois que ça fait partie de mon art. Parce que quand je suis sur une décoration de film, par exemple, c'est moi, c'est mon imagination et c'est mon talent qui s'exprime là. Donc, je ne dissocie pas.
Mais ça. Il est un peu commandité quand même.
Je ne dissocie pas ça de mon travail d'artiste. Des fois, c'est commandé, mais je ne suis pas... je suis libre de le faire...
À ta manière.
À ma manière. Donc, je dis comment je peux le faire, comment ça doit être fait. Donc, je suis tenu par le résultat, mais pas ce que... le réalisateur ou le metteur en scène dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, je comprends.
Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et comment tu fais? Parce que tu n'avais pas... Là non plus, tu n'as pas fait d'école...
Tu sais, les choses se font quand elles doivent être faites. Je ne sais pas.
Mais comment ça se fait, par exemple, qu'on fait appel à toi?
On fait appel à moi parce qu'on sait que je suis capable. Donc, c'est pas l'école qui détermine tout ce qu'il y a autour. Hein. C'est pas
non, l'école. Mais je dis école, mais ça aurait pu être une formation n'importe où. Enfin, mais je me dis, il y a d'autres artistes au Bénin. Il y a Ousmane Aleji qui se dit, tiens, je vais inviter Mankef pour Contradiction ou pour le Fiteb ou...
Il m'invite parce qu'il sait que je suis capable. En fait, quand comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des commandes. Mais ces commandes-là, on te demande de produire, comment on appelle, un projet d'abord autour de...
Ah, d'accord, donc il fait comme on appelle un projet.
Bon, quand je dis, c'est pas un appel à projet où c'est lancé, où tout le monde postule. Non, quand... Moi, je suis appelé, par exemple, pour un travail pareil. Je dois produire une maquette par rapport à ce que je dois faire. Et c'est à partir de cette maquette que...
On te confie ou pas le...
On me confie. La majeure partie du temps, on me confie, quoi. On me confie. Et ce n'est pas le rôle du metteur en scène ou du réalisateur de me dire comment il faut le faire. Non, c'est à moi de dire comment...
Tu le vois.
Ça va être fait comment je le vois. Et ça se fait la majeure partie du temps. Donc j'ai illustré aussi. J'ai illustré des revues. J'ai fait de la caricature dans les journaux. Oui, pas mal. J'ai fait pas mal de choses aussi, quoi.
Donc en fait, depuis 30 ans, tu vis un peu de...
Ah oui, je vis de
ton pinceau, de ton...
Oui, je vis de ce que je fais, je vis...
Ce qui est assez rare au Bénin. Ici oui. aussi, d'ailleurs, parce que...
Ah oui. Tu sais, quand on prend conscience de ce qu'on sait faire, ce qu'on fait, et puis on s'assure de bien le faire, on a envie, hein, je crois bien, ouais.
Mais tu as donné des cours de dessin et de peinture à un jeune public, à des enfants, tu es intervenu dans des écoles à l'Institut français à Cotonou et en France. En France, tu as fait un atelier qui s'appelait Héritage climatique dans une école primaire lors de ta résidence à
Dijon.
À Dijon, à l'ENSA de Dijon en 2019. Oui, tu peux nous raconter un peu ces expériences?
Bon, en fait, oui, c'est des expériences qui m'ont permis de partager ce que je sais faire avec les enfants, un jeune public. J'en ai fait à Cotonou, à l'Institut français. J'en ai fait au centre à Lobo Zumpa sur la route de Ouida. Et puis, la dernière fois, c'était à...
Le centre de Valois.
Valois, oui.
Parce que la galerie Valois, ils ont
un centre oui, sur la route de Ouida. La dernière fois, c'est à Dijon, à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, où j'étais en résidence.
Pendant 3 mois, oui.
Pendant 2019, trois mois, oui. Où j'ai proposé un projet. Et suite à mon projet, j'ai travaillé avec une école. À Fontaine-Douche, je crois que c'est dans la banlieue de Dijon, je crois. Donc j'ai travaillé avec les enfants. Le projet est intitulé Héritage climatique, c'est-à-dire j'ai demandé aux enfants, comme moi j'utilise les dessins, les mots des enfants, les cahiers, donc j'ai demandé aux enfants de me dire comment ils voient le monde quand ils seront adultes comme moi. Je leur ai demandé de voir le monde aujourd'hui, la nature autour d'eux, et de me dire comment ils aimeraient que ça soit.
Ah, comment ils aimeraient ou comment, oui.
Oui, comment ils aimeraient. Parce qu'aujourd'hui, avec la pression que l'être humain exerce sur la nature, et si on n'y prend pas garde, peut-être nous allons tous y passer. Hein? Qui sait? Moi, il y a des fois, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas en train de voir Mars et comme la Terre, c'est-à-dire Mars était comme la Terre aujourd'hui, et puis après, peut-être les gens qui sont restés avec le désordre qu'ils ont organisé, ça a amené à ça aujourd'hui. Donc, c'est des questions que je me pose des fois. Donc, c'est ainsi, et puis les enfants... ont dessiné, ils ont fait pas mal de choses que j'ai récupérées après. C'est d'après ça, moi, j'ai produit mon projet. Après, bon, ça a été exposé à la galerie ici, à Paris, quoi. Ouais, été exposé.
C'était la restitution de ta résidence
c'était
à Dijon.
C'était la restitution, ouais.
Yeah, bandos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas, avant d'uriner, il crée oh oh, une voix d'or. Oh oh oh. Afrique, il est de visa dans mon corps, il est de crapousa de Wahundo, il est de l'égézalo, ça me produit, il est de colosa, le paracou, il est de tout, 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 avait 67 élèves, dont 23 filles en 6e. Mais en classe de terminale, nous avons demandé, on nous a dit, il ne restait plus que 3 filles. Et c'est dommage pour moi. Toi à 10h, tu m'as la maison que tu as toi à 7h. Tu sors de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en routine bleue. Yeah, ce fléau de portable, vous savez comment cela se passe. Les portables sont mis en vibro, vibrato, vibro, et nos annonces. Allô, allô, non, j'ai pas fini mes cours. Comment tu peux suivre? Hey, Nini, je pourrais reposer, faire les supports. Rouge à lèvres et blissant. Tu n'arrives plus à suivre ton professeur. L'argent que papa a dépensé, comment il va le récupérer, oh. Je veux parler aussi de quelqu'un. Écoutez-moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au Covid. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple, parce que à l'Assemblée nationale, vous n'existez pas. Dans les grandes décisions, on ne vous entend jamais. Dans les grands bureaux, les femmes n'existent pas. Qui est dans le rodaode, on ne trouve jamais les femmes. Ni calé, ni galé, ni azomé, parce que le peuple a besoin de vous. Vous êtes nos mamans, nous avons besoin de vous. Avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple.
Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple.
Par rapport au fait que tu as travaillé avec le jeune public aussi à Cotonou, est-ce que tu as remarqué ces derniers temps un intérêt plus grand pour l'art plastique au Bénin? Est-ce que ça a évolué auprès de la population? Est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qui a changé?
Non, aujourd'hui, je crois qu'il y a une floraison de la création contemporaine au Bénin. Moi, j'ai, en mon temps, et moi, je me considérais comme, en mon temps, je me considérais comme jeune artiste aujourd'hui, et on n'était pas nombreux en ce temps. Aujourd'hui, il y en a tellement. Il y a ceux qui viennent des écoles, là, et puis il y a ceux qui se forment aussi sur le tas, et puis, avec la politique de notre gouvernement aujourd'hui, je crois que l'art contemporain au Bénin a de beaux jours, quoi. A de beaux jours.
Parce que les personnes qui amènent leurs enfants pour prendre des cours de dessin, ça veut dire qu'ils accordent un intérêt...
Ils accordent un intérêt important à
mais
la chose.
Mais ce sont qui, en fait? Déjà, il faut qu'ils aient peu d'argent, les parents.
Il y a des expatriés, il y a des Béninois aussi.
Parce des que, classes plutôt aisées.
Bon, c'est pas forcément... C'est pas forcément les classes... Oui, il y a ceux qui sont de la classe moyenne aussi, des gens qui n'ont pas grand-chose aussi, quoi. Oui, qui veulent que leurs enfants comprennent ce que c'est. Parce que parmi ces enfants-là, c'est pas forcément tous qui seront des artistes.
Non, mais bien sûr, oui.
Il y aura
c'est pas pour ça qu'ils viennent, forcément.
Il y aura ceux qui seront des collectionneurs, il y a ceux qui seront des critiques, il y a ceux qui seront... un public qui vont parler de la chose, comme toi, tu le parles aujourd'hui à la radio, quoi, ainsi de suite, ouais. Je crois.
Tu as fait des résidences, tu as travaillé avec d'autres artistes, tu as fait des expositions collectives.
Ouais.
Est-ce un aspect qui te semble important, travailler avec les autres? Est-ce que c'est un choix, une nécessité? Qu'est-ce que ces résidences, collaborations t'apportent?
Bon, en fait, je crois que il faut confronter son travail à ceux des autres aussi. Hein. C'est ça le primordial, parce que quand on est artiste, moi, j'ai fait des expos collectives, j'ai travaillé avec des gens, j'ai fait des résidences. C'est une façon pour moi de ça dit, c'est pas du challenge, hein, c'est pas, on n'est pas dans un monde où on n'est pas en compétition, hein, mais c'est mesurer mon travail par rapport aux autres, savoir ce que j'apporte et ce que je peux tirer des autres et ce que les autres peuvent tirer de moi. C'est en un mot un partage.
Et c'est important pour toi.
Ah oui, c'est important. C'est important dans la mesure où ça me permet de savoir où je vais et d'être sûr et certain de ce que je fais. Ouais.
Je trouve parfois que l'artiste est rarement observé avec justesse. Il est tantôt ignoré, tantôt adulé. On lui accorde parfois un rôle messianique ou alors on trouve son art, l'art superflu. Qu'est-ce qui te semblerait plus juste? Comment te vois-tu comme artiste? Est-ce qu'il y a une justesse, un juste milieu entre tout ça où tu penses effectivement que tu as un rôle messianique ou alors tu penses que...
C'est quoi avoir un rôle messianique d'abord?
Il y a qui disent qu'un artiste peut annoncer des choses, qu'il peut voir avant les autres, comme Messie, tu vois, quelqu'un qu'on attend.
Ah oui. Et je pense que la majeure partie du temps, les artistes qui sont ignorés, par exemple... C'est après leur mort qu'on les reconnaît, quoi. Mais moi, je ne veux pas faire partie de ce lot-là, quoi. Moi, je crois que l'artiste, c'est quelqu'un qui dit des choses qui arrivent des fois. Des fois, je vais chercher des choses dans l'invisible que je ramène dans le visible. Moi, je vois des choses que le commun ne voit pas. C'est, on peut être ensemble là maintenant. Moi, je veux voir des choses que toi, tu ne vas pas voir. Mais quand je vais te le dire, tu vas t'étonner, tu vas te demander, tu vas te poser des questions. En fait, je...
Tu ne penses pas que chacun puisse voir des choses que l'autre ne voit pas?
Que chacun?
Tu ne penses pas que chacun puisse voir des choses que l'autre ne voit pas? Tu crois que c'est que l'artiste qui voit des choses que les autres ne voient pas?
Ah oui. Ce que l'artiste voit et que l'autre ne voit pas, ça sort de l'ordinaire. C'est pas... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça sort du... En fait, bon...
C'est comme si tu avais un sens en plus. Hein.
Justement, c'est comme s'il y a un sens, un sixième sens qui... On peut retourner à la question, s'il te plaît. Hein?
Je pense que tu as un peu répondu, oui. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait trouver un juste moyen pour juger d'un artiste. Il est soit ignoré, soit adulé. Toi, comment te vois-tu?
Moi, j'aimerais bien rester au beau milieu quoi, de tout ça.
Tu ne veux pas être ignoré, mais tu n'as pas besoin qu'on te mette sur un piédestal non plus.
Un piédestal, parce que quand tu es sur un piédestal, il faut savoir que tu ne voudras jamais retomber, quoi. Donc, il faut faire tout.
Il faut continuer.
Il faut continuer. Mais moi, je préfère rester au beau milieu, là, parce qu'au beau milieu, tu as tout, quoi. Bon, je ne sais
oui,
pas.
Oui, je comprends. Après, la vie, elle est comme ça.
Ah oui, oui, il y a des hauts et des bas.
Il y a des bas.
Hein. Donc, il faut...
Si on est trop, on ne peut pas respirer, il n'y a plus d'air.
Ah non, tu... on ne peut pas respirer, franchement. Ouais.
Est-ce que l'approche de l'art du public européen te semble différente de l'approche du public dans ton pays?
Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, l'approche est différente, hein, parce que ici, les gens savent, les gens connaissent. Ils savent déjà...
En tout cas, ceux qui viennent dans la galerie.
Ceux qui viennent. Bon, tu sais, la majeure partie des gens ici, bon, c'est mon avis, hein, et savent, parce qu'ils ont, depuis leur bas âge, ils savent ce que c'est que l'art, au moins. Mais chez moi, c'est pas pareil. Parce que
chez toi, t'as dit que l'art, il est partout.
Oui, l'art, il est partout, mais c'est pas... L'art, il est partout, mais c'est pas dans le sens...
Dont on voit l'art ici.
Dont on voit l'art. C'est-à-dire, quand je dis l'art est partout, tu vois, la bonne dame qui expose son petit étalage dans la rue, c'est de l'art. La bonne dame qui s'habille de différentes couleurs de tissus, c'est de l'art. Tu vois, les panneaux publicitaires ou les panneaux de coiffure, de coiffeur que tu vois et réalisés à la main, c'est de là.
Le marché d'Antokpa, c'est de là.
Le marché d'Antokpa, c'est de là. La rue, quand tu passes avec les passants avec des bagages sur la tête, c'est de là. C'est de là. Mais est-ce que nous, on ne le voit pas comme ça? Ça dit, les gens, à part ceux qui savent, moi, je suis un artiste et je sais que tout ça, ça participe à quelque chose au fond de moi que je...
Oui, qui te nourrit et que tu vas...
Nourrit, qui, ouais. Qui me nourrit, qui nourrit mon travail. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, c'est ici, je dis, depuis tout petit, l'enfant, on lui apprend, des fois, ses parents l'amènent, visiter des musées, voir des choses, peut-être dans une galerie et voir de l'art. Mais chez nous, il n'y a pas ça. C'est pourquoi je dis, ici, l'approche est différente parce qu'on apprend, on inculque à l'enfant depuis son bas âge ce que c'est que l'art. Quitte à ce qu'à l'âge adulte, il n'ait pas forcément les moyens d'en acquérir, quoi. Mais chez moi, par contre, aujourd'hui, c'est de nos jours, c'est notre travail d'éduquer les gens, Et c'est en ça que je remercie le gouvernement de mon pays qui a initié des classes culturelles où on apprend aujourd'hui dans les écoles, on apprend là aux enfants de...
Ah oui, ça existe maintenant.
Oui, ça existe maintenant. Ce n'est pas forcément des écoles d'art, hein,
oui.
Mais à partir du primaire... Jusqu'au secondaire, dans les classes, il y a des professeurs d'art plastique qui vont apprendre aux enfants.
Et ils font appel à des artistes aussi pour
intervenir. Oui, ce sont des artistes. Et ce sont des artistes qui ont été recrutés, formés pour ça. Moi, je fais pas partie parce que moi... Tu sais, il y a des fois quand... Bon, peut-être je le ferai après quand j'aurai la tête tranquille. Et ça participera demain... À ce que qu'on soit certain que ces enfants-là parleront du travail de l'artiste où il y aura certains parmi eux qui vont acheter et ceux qui vont en parler, ceux qui seront des historiens qui vont documenter ce qui va se faire en leur temps ou ce qu'on a déjà fait qui va exister quand ils seront des adultes.
Mau ke kare, mingae, aoué. Nana inde, pet samba mjekbe. Nana inde, pet samba mjekbe. Bena yon ye, peglo he, katon walo beyeye. Bena yon ye, peglo he, katon walo beyeye.
Serait d'après toi l'école d'art idéale? Qu'aimerais-tu qu'on y enseigne?
L'école d'art idéale est de permettre à l'artiste d'être lui-même, de sortir de lui ce qu'il a au fond de lui, de ne pas lui imposer des voies à suivre, ouais, je crois, hein, ça va être idéal, cette école-là. Ouais.
Quelles seraient, d'après toi, les formes utiles?
Les formes utiles
pour dans moi, l'art, dans la vie?
Moi, les formes utiles sont les lignes de la vie où tout n'est pas carré. Tout n'est pas droit. On peut tomber, on peut se relever. savoir où on va ou ne pas savoir où on va, vivre et ne pas vivre, pourquoi pas, et un jour finir avec tout ça, se retrouver derrière le rideau. Moi, je crois, pour moi, ce sont les formes utiles.
Ouais. Et la responsabilité de l'artiste?
Je crois c'est de...
Il y en a.
Ah oui, c'est... La responsabilité de l'artiste, c'est je crois, de conscientiser par son travail. Je crois l'artiste est un éveilleur de conscience.
Il a un rôle politique, l'artiste, d'après toi?
Tu sais, l'artiste, quand l'artiste prend la parole, l'artiste devrait, par son travail, prendre la parole. Et parce que, par son travail, il est honnête, tandis que la politique... Ce sont des menteurs, des gens, des opportunistes, tu vois. Donc là où le politique prend la parole, c'est normalement l'artiste qui devrait le faire. Mais nous, on le fait déjà par notre travail, par notre travail. Donc je crois que...
Donc c'est l'honnêteté déjà, c'est ta responsabilité d'être honnête.
D'être honnête. Et puis, normalement, le monde devrait appartenir aux artistes. C'est-à-dire, nos chers pays devraient être dirigés par les artistes, mais pas, pas à leur saut d'humeur, hein, parce que l'artiste aussi a ses sauts d'humeur ou des fois, tu vois.
Une république des artistes.
Une république des artistes. Le monde des artistes. Le monde devrait être géré par les artistes. Parce que l'artiste, tu vois, il voit tout beau, ce que les gens voient, tout grisaille, mauvais et tout. L'artiste le voit tout beau et l'artiste...
Donc, tu crois que le monde serait meilleur si les artistes...
Géraient le monde.
Géraient le monde.
Oui, je crois bien. Je crois.
Tu as une haute opinion des artistes, de tous les artistes?
Ah oui, moi, je me vois...
Tu en connais quand même pas mal.
Ah oui, j'en connais pas mal. Et puis
tu laisserais le pays dans la main de n'importe lequel, hein?
L'artiste, oui, n'importe lequel, je crois.
Ah oui?
Parce que, parce que je me vois comme lui. Et je sais qu'il est comme moi et il voit le monde comme je le vois aussi. Donc, pourquoi
pas? Et tu penses que votre manière de voir est la bonne?
Oui, notre manière de voir peut ne pas être la bonne chez les autres, mais nous, on sait que notre manière de voir est la bonne. et puis, comme ça, ça participe à tout ce qui est de mieux sur la planète. Parce que si tu crois, si les artistes géraient le monde, tu crois que tout ce bordel là, ce qu'on vit là, on va le vivre, on va pas le vivre? Je crois bien, parce que on va mettre des garde-fous pour permettre à chacun d'être, tu vois, d'être dans son monde, dans son bonheur, tu vois, c'est ça.
Est-ce que tu as envie de formuler une question à laquelle apporter une réponse, une question que je ne t'ai pas posée?
Oui, moi je crois que ce que moi je voulais dire, c'est que pour moi, l'art est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Ouais, je crois bien, ouais.
Donc tu aurais voulu que je te demande qu'est-ce que c'est l'art pour toi?
Ah oui, pour moi c'est ce que c'est que l'art. Tu vois, c'est ce que c'est que là.
Ok, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je rappelle qu'une exposition de ta série de dessins, Mes nuits insomniaques et quelques jours d'errance, peut être vue jusqu'au 1er février à la Galerie Valois, au 41 rue de Seine, dans le 6e arrondissement. Et j'aimerais clore cet entretien par l'extrait d'un texte qui s'appelle « Entre singularité et similitude ». Cotonou, une ville en changement, un texte écrit par Monica Corali et Maria Anita Palumbo dans le cadre d'une recherche réalisée à Cotonou en 2009. La recherche, elle était faite dans le but de photographier et analyser les changements urbains, mais j'ai pris juste les premières impressions à l'arrivée à Cotonou. C'est un texte assez ancien, mais je pensais que ça serait bon qu'on puisse voir un peu Cotonou. Ciel gris à l'atterrissage. Les voitures sont presque à l'arrêt dans cette rue pavée. Il y a « go slow », comme on le dit ici. Seul le flux ininterrompu de taxi-motos en blouse jaune semble échapper à l'immobilité. La latérite soulève une poussière rouge qui couvre les voitures. Un coq chante, un autre lui fait écho. Une grande villa avec son jardin de plantes tropicales, à côté d'une étendue de maisonnettes à un étage avec toit en tôle. Une femme, avec un pagne autour de la taille, court après son enfant. Le bruit des axes principaux s'oppose au silence d'une voix en sable à l'allure campagnarde. Le temps long d'une négociation pour un miroir dont l'achat n'aura pas lieu aujourd'hui, cela se passe sur le terre-plan central d'une rue commerçante du centre-ville, puis, de part et d'autre, les voitures défilent à un rythme frénétique. Avec leurs klaxons, elles scandent un temps irrégulier, avec des pauses et des accélérations. Des vendeurs de rue sur le trottoir qui longe le chantier du plus grand supermarché de la ville en construction. 31 degrés, 10h51, dit l'enseigne lumineuse de la boutique La Diversité. Finesse, efficacité est le slogan du panneau publicitaire de la Banque Atlantique qui présente l'image d'un homme noir en costume, debout, devant un immeuble à étage, en train d'admirer l'horizon. Move SMS International. Envoyez vos SMS vers plus de 740 destinations dans le monde à 70 francs CFA, le SMS. À côté, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, une pagode à 5 étages et le Sphinx comme gage de mondialité. Maîtrisez votre monde. Un homme géant et souriant, habillé en costume traditionnel, nous y invite. Un groupe de Zemidjan, les conducteurs des taxis-motos, discute d'actualités politiques et de faits divers autour d'un kiosque à journaux du quartier. À côté, deux femmes installent un stand aux abords d'une école, quelques minutes avant la sortie des élèves. Une demi-heure après, le paysage de la rue aura changé. Vers 16h, le trafic s'estompe, c'est l'heure du foot. La primauté donnée aux voitures s'interrompt pour laisser la place à la socialité par le jeu, dans tous les quartiers, tant parmi les riches que parmi les pauvres. La solitude d'un bateau de pêcheurs en dérive dans le bras de mer qui rejoint le lac entre deux ponts, qui relie l'est et l'ouest de la ville. Vertige face à la courbe sinueuse d'un échangeur à l'entrée de la ville. À Dantokpa, une passerelle surplombe le grand marché, cet estomac qui défie toute proxémie. À l'intérieur, on s'égare facilement. D'autres éléments nous permettent de nous retrouver. Le tracé géométrique de la ville coloniale, la place de l'étoile rouge de la ville soviétique, la pagode du centre culturel chinois de la ville de demain. Cotonou est une ville traversée par des micro-événements qui créent des centralités temporaires qui se déplacent à l'intérieur du périmètre urbain au fil de la journée. On transpire tout au long de la journée, on apprécie l'air frais à la tombée de la nuit. Dans l'obscurité, on a presque l'impression de se réconcilier avec les lieux, de pouvoir régler notre respiration en fonction de celle de la ville, qui, dans l'invisibilité, paraît plus proche. C'est une ville d'apparition et disparition, où la rue est une scène, dont les moments forts doivent être connus par le visiteur pour s'y synchroniser. Dès le premier jour d'exploration, des impressions s'accumulent. À Cotonou, on se perd et on se retrouve par à coup. On se croit parfois dans une ville accessible, mixte, ouverte, et d'autres fois dans l'exclusion et la ségrégation. En fait, le fonctionnement de cette ville nous échappe. Dérangeant décalage d'une altérité reconnaissable, ce que nous voyons nous rappelle des images déjà vues, des réalités familières, des ambiances vécues. La perception n'est pas de quelque chose de complètement autre, mais plutôt un agencement inattendu d'éléments connus. Et pourtant, la trame de la ville coloniale est là. Lorsqu'on monte sur la terrasse des immeubles qui dominent la ville, elle est frappante dès le premier coup d'œil. Sur cette trame semble surgir un paysage urbain en collage, comme si la seule manière de s'y repérer était celle d'identifier des formes rappelant au plus près d'autres villes européennes ou certaines époques de notre histoire urbaine. On peut vite tomber dans le piège de la comparaison qui devient outil de description de la réalité que l'on observe. L'association entre cette apparente continuité de la forme urbaine et cette apparente discontinuité d'usage nourrit l'impression de « presque » entre guillemets « ville » ou de « ville » entre guillemets « défectueuse ». Certes, notre idée de ville et notre habitude à vivre dans des villes nous aident à y trouver des repères, mais l'impression générale ne saurait s'éloigner du sentiment de désordre. Voilà que, à l'extrême opposé de la ville européenne, émerge la représentation de la ville africaine, entre guillemets, informelle et autorégulée, que bien des architectes, urbanistes et sociologues ont construit dans le souci extrême d'un relativisme culturel essentialisant qui ne fait qu'enfermer la réalité dans le stéréotype. Merci Makef.
Merci Fabiola. Merci à Cause Commune.
Merci à Isabelle aussi.
Merci à Isabelle. À très bientôt.